Bezrat Hashem, on va avoir un cours un peu particulier aujourd'hui, tous ensemble, sur le thème de Pourim. Alors, on pourrait parler des mitzvot de Pourim, on pourrait parler de l'importance de Pourim, de l'histoire de Pourim, tout ça, c'est une bonne chose. Mais on doit essayer d'arriver à comprendre. Nous, on a différents problèmes. Premièrement, on voit que Esther dans la Megillah, elle a plusieurs noms. Elle s'appelle Esther dans toute la Megillah. On nous apprend après qu'elle s'appelle Hadassa dans le Talmud. Et certains nous disent qu'elle s'appelait Sarah. Dans la Gemara, dans la Sechet Megillah. Comment elle s'appelle? Et pourquoi nous on l'appelle Esther? Alors tout le monde connaît l'histoire. On l'appelle Esther parce qu'on dit que comme les miracles étaient cachés à la période de Pourim et que les miracles se sont faits par le biais de Esther à Malka, d'accord? Donc on l'appelle Esther. Et puis il y a une autre chose qui est connue. Il y a un Hidour Mitzvah quand on écrit la Megillah de Pourim d'écrire des Megillot Hameler. Ça veut dire quoi les Megillot Hameler? Que à chaque fois qu'on arrive à un nouveau Hamoud, à une nouvelle page de la Megillah, c'est bien, c'est un Hidour d'arriver à avoir une Megillah où à chaque fois le premier mot c'est Hameler. Est-ce que vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de chassidim qui nous disent oui, c'est une coutume chassidique, ce qui est faux. C'est un Hidour Mitzvah qu'on rapporte dans la Halakha. Qu'on soit séfarade, chassid, ashkénaze, martien, extraterrestre, tant qu'on est juif, d'accord, c'est un Hidour Mitzvah pour tout le monde. Ça veut dire quoi en réalité? Tout simplement parce que le Hameler, quand on ne fait pas référence à Achashverosh, quand c'est pas marqué Hameler Achashverosh, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit que le nom de Dieu n'est pas dans la Megillah, d'accord, mais Dieu, son nom, il est caché dans la Megillah, à travers ce mot Hameler, d'accord. Quand on dit que les bénis Israël et Nam Shomim et Hameler, ils n'écoutent pas les religions, les lois du roi, ça fait un petit peu peur. Oui ou non? Parce que ça veut dire quoi? Il y a deux sens. Un, ils ne sont pas disposés à écouter les lois d'Achashverosh. Parce que quand Haman critique les bénis Israël, c'est ce qu'il dit à Achashverosh. Et deux, si on fait référence à Dieu, ça veut dire que les bénis Israël, ils n'ont pas fait Torah Mitzvot comme il faut. Et c'est pour ça que la Xéral est en train de leur tomber dessus. C'est un peu ça l'histoire aussi à Pourim. Donc on voit en réalité, qu'est-ce que c'est exactement cette notion de Esther? Alors on voit que dans la Torah, on nous rapporte à plusieurs reprises. On voit par exemple quand Caïn il a tué son frère Abel, d'accord? On voit tout simplement que Akadosh Baruch Hu, il lui dit j'entends le sang de ton frère depuis la terre qui m'appelle. T'es en train de me dire, où est-ce qu'il, quand Akadosh Baruch Hu demande à Abel où est-ce qu'il est ton frère, il dit moi je suis le gardien de mon frère. Quoi, moi, je vais garder mon frère. C'est mon job de le garder alors qu'il l'a tué. Il dit, j'entends le sang de ton frère dans la terre en train de m'appeler, de crier crime au crime. Et toi, tu es en train de me dire, est-ce que tu es le gardien de ton frère? Sache que tu es maudit, toi, ta descendance. Bref, une catastrophe pour Caïn. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit hein, à ce moment-là que Caïn, lui, alors il lui répond, et sa terre, panaï, d'accord? Il dit, je cacherai mon visage de ton visage. Mipanecha. Ça veut dire quoi? Je cacherai mon visage de ton visage. Ça veut dire quoi? Si à partir du moment où moi, Caïn, tu me maudis Dieu, moi et ma descendance, je regrette mon acte, c'est ce qu'il dit. Il lui dit que je regrette mon acte. Je suis vraiment désolé d'avoir fait un acte aussi grave qui me vaut aujourd'hui d'être maudit. Mais mon visage, si tu veux, je le cache devant toi. Cache-moi ta présence divine de devant moi, mais ne me maudis pas. Ça commence comme ça. On voit après dans la paracha Vayeler, ça c'est pour ceux qui veulent aller voir les psukim après, les mefarshim, etc. C'est dans Bereshit, paracha Bereshit, Perek Dalet, Pasuk Yud Dalet. D'accord? Maintenant on voit quoi? On voit après que dans paracha Vayeler, Perek Lamed Alef, Pasuk Yud Ret, alors il nous est rapporté Vayanochi Aster, Astir, Panay. D'accord? Donc, et moi, je cacherai mon visage. De quoi? C'est en fait référence au moment où Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il est arrivé dans ses vieux jours, dans le Sefer Dvarim, Parashat Vayeler. On voit quoi? Et on voit qu'il lui annonce donc qu'il est arrivé dans ses vieux jours et qu'il est sur le point, Moshe Rabbeinu, d'être appelé au ciel. Et à partir de ce moment-là, il lui rappelle toutes les fois où Dieu lui rappelle toutes les fois où il s'y met en colère contre les bénis Israël. Et que Dieu, à partir de ce moment, il a décidé, lui, de cacher sa face. Omni Israël. On rappelle, quel rapport maintenant les deux? Vous avez compris le rapport ou vous n'avez pas compris le rapport? Mis à part le terme. D'accord? De Esther, Astir, ok? Et sa terme, Ipanecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, tout simplement, que Chachamim, il nous rapporte comme c'est rapporté dans la Nivoua de Daniel. Quand Daniel, il nous rapporte qu'il restait 1335 ans Un coup, il dit 10335 ans, un coup, 1290 ans, avant la Géoula, d'accord? Où là-bas, il nous dit, élève Shloshmeot, Shloshim Vechames, Yamim. On apprend de là que dans le Tanakh, quand on nous dit Yamim, d'accord? Dans Nevim, Ketuvim, à chaque fois qu'on dit Yamim, Yamim, ce n'est pas les jours, c'est les Shanim. C'est pour ça que la chronologie des rois, d'accord? Selon les années des rois, on n'appelle pas ça Divré à Shanim, mais Divré à Yamim, d'accord? Tout simplement. Parce qu'ici, dans le Tanakh, quand on dit Yamim, ça fait référence tout simplement aux années. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que Daniel, il est en train de nous dévoiler le nombre d'années qui resteraient avant qu'on rentre réellement dans une période de Géoula. Ok? Qu'on arrive, etc. Dans Masrech Sanhedrin d'Aftun Zayn, là-bas, on nous rapporte tout simplement différents avis. Il y a des avis dans tous les sens. Rabbi Akiva, etc. Rabbi Hanina, tout le monde. Chacun donne un avis différent pour nous expliquer à quel moment la Géoula va arriver. Et chacun, la date qu'il donne, on voit, c'est très effrayant par rapport aux calculs qu'ils sont tous en train de faire, ça tombe à des dates essentielles pour les Bnei Israël où il y aura de grands malheurs pour les Bnei Israël. Terrible. C'est une Gemara terrible. Donc on comprend à chaque fois qu'on a eu des grandes épreuves à travers notre histoire, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir amener la Géoula, selon la névoie de Daniel Hanavi, d'accord? Et on n'a pas eu cette occasion, à chaque fois on a raté le coche. Parce qu'on n'a pas su avoir le mérite. Alors pour rappeler une chose essentielle, c'est qu'il est rapporté dans la Gemara que chaque jour une génération ne verra pas la construction du Beth Amikdash. La génération en question devra considérer que le Beth Amikdash a été détruit le même jour. Dans quel rapport avec l'ami qui l'a testé et tout ce que je suis en train de raconter, le Beth Amikdash, etc. C'est intéressant, non? En réalité, on nous rapporte Daniel Hanavi quand il nous dit tout simplement qu'il reste 3335 ans, après 1290 ans, bref, il a plusieurs névoies de Daniel, 400 ans, etc., c'est très compliqué. Les névoies de Daniel sur la Géoula, arriver à comprendre et les interpréter. Dans la Gemara, on essaye d'expliquer, mais c'est pas clair non plus. À la finale, on voit qu'il y a différentes occasions de pouvoir amener à la Géoula, et ça dépend de nous, si on aura un mérite ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend une chose qui est extraordinaire, c'est que Daniel, en réalité, il nous dit combien de temps va durer encore la Klala et sa terre Panera. Que Dieu, en réalité, il nous cache sa face. Combien de temps encore il va nous cacher son visage, sa face? Il y a une clala. Depuis que Caïn a tué son frère, par la suite, à Kadosh Baruch Hu, après que les Bnei Israël se sont rebellés dans le désert, à deux reprises à Kadosh Baruch Hu nous rappelle qu'il y a une clala sur l'ensemble de l'humanité où Dieu nous a caché sa présence divine. Mais ce n'est pas uniquement cacher sa présence divine, parce qu'on voit très bien, on sait tous, que la présence divine, à partir de quel moment elle a commencé à être cachée aux hommes, à partir du moment où Adam et Ève ont fauté. Donc ça remonte à très très loin, la création du monde. C'est le sixième jour de la création, c'est extraordinaire. On voit qu'en l'espace de quelques heures, l'homme il a été créé à la sixième heure, à la douzième heure, Khatsotayom, il était aux portes du Gan Eden, on l'a mis à la porte. 6 heures. Adam et Ève, ça leur a pris 6 heures pour détruire tout le Gan Eden et tout le rapport qu'il y avait entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire, il faut arriver à comprendre. Et à partir de ce moment-là, donc, la Shrina était cachée à nous. Elle était cachée. Mais on voit réellement que la Shrina sera totalement cachée. On voit que, il faut bien comprendre que Caïn, c'est Dieu qui vient le voir. Il parle avec Dieu dans la Torah. Caïn, alors qu'il vient de tuer son frère. Donc on voit qu'on avait une proximité avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire, même après la faute originelle. Que même si Dieu avait retiré le Gan Eden de ce monde en réalité, et pas totalement sa présence, on avait encore une proximité avec Dieu. Le fait que Caïn ait tué Abel, ça nous a enlevé cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Cette proximité, à quel moment elle revient? On dit que quand Dieu donne la Torah sur le Har Sinaï, il y a une coutume assez particulière chez les Chassidim, chez certains chassidim, d'appeler le Vav, d'accord, le Yud Aruka. Donc, la lettre Yud, longue, d'accord, ou Yud Gdola, le grand Yud. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand tout le monde a l'habitude, sur certains mots, de dire Adonai-nous, eux, le Vav qui est à la fin, ils ne le lisent pas Vav, ils le lisent Yud. Si je remplace le Vav par un Yud, le mot, il se transforme en quoi? Adonai-ni. Quand on dit Malkenu, ils disent Malkeni. Oui ou non? Alors beaucoup pensent que c'est une déformation parce que certains ont vécu en Hongrie ou dans d'autres pays, etc., etc. Aucun rapport. C'est une coutume pour nous rappeler tout simplement que le Vav, À la base, c'est un yud. Pour se rappeler quoi ? Le nyan que je vais vous expliquer. C'est assez particulier, en réalité. C'est qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, son nom, le tétragramme, donc le nom de Dieu Yudke Vavke, qui a une valeur numérique de 26, comme le précise le terme tétragramme, d'accord ? Tout simplement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce nom-là, Yudke Vavke, à la base, il ne devait pas s'écrire comme ça. Il devait s'écrire Yud-He, Yud-He. Deux fois Yud-He. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel qui a une, dans, pour lequel il y a une plénitude totale. Donc le nom de Dieu qui est top, c'est pas 26, c'est 30. Normalement. Normalement. Donc on a un problème là, déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité, le Ben Ishraï, il rapporte très bien. Il dit normalement, le nom de Dieu, quand Mashiach reviendra, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, on verra tout simplement que le nom de Dieu, au lieu d'être écrit Yud-Ke, Vav-Ke, comme on le voit aujourd'hui, on le redira et on le réécrira, comme on avait pu d'avant, Yud-He, Yud-He. Tout simplement. Maintenant, quel rapport avec tout ce qu'on est en train de dire ? Tout simplement, une chose extraordinaire. On dit qu'en vérité, le nom de Dieu, quand il a créé ce monde, c'était Yud-He, Yud-He. Et on voit que le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke, qui est introduit pour la première fois dans Bereshit, après que Dieu ait terminé de créer toute la création, on voit au début Bereshit bara Elohim. Au début de la création, il n'y a que le nom Elohim. Et à chaque fois qu'on nous rapporte une création, il y a le nom Elohim. C'est quoi Elohim ? Midat Hadin. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde selon les lois de la nature. Les lois de la nature, elles sont obligées de respecter à la lettre les règles du développement de la vie sur Terre. Donc, raison pour laquelle Dieu a créé le monde au départ sous la rigueur divine. Mais à partir du moment où il a créé l'homme, on voit après que va se créer, juste avant de créer l'homme, on voit le nom de Yud-Ke Vav-Ke qui va apparaître dans la parasha Bereshit. Pour quelle raison ? Parce que le nom de Yud-Ke Vav-Ke, là-bas, représente Midat Rahamim, l'équilibre entre le Din et le Chesed. Rahamim. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit qu'à partir de ce moment-là, tout simplement, hein, on voit le nom de Dieu qui apparaît ici. Mais dans la Torah, on l'écrit Yud-Ke Vav-Ke parce que c'est à l'époque de Moshe Rabbeinu. D'accord ? Mais à l'époque, il a écrit Moshe Rabbeinu Yud-Hei, Yud-Hei, comme il rapporte le Ben Ishraï, comme c'est rapporté dans le Midrash. On n'écrivait pas Yud-Ke Vav-Ke. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est arrivé Yud-Hei, Yud-Hei, on arrive à Yud-Ke Vav-Ke ? Tout simplement parce que quand Adam Arishon, il a fauté, quand Adam Arishon, lui, il a fauté, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand Adam Arishon a fauté, le Akadosh Baruch Hu, sa Shrina qui était dans ce monde, elle s'est retirée. D'accord ? Et on voit que Dieu, au moment du Har Sinaï, il a refait descendre la Shrina et l'a dévoilée à tous les Bnei Israël, au moment du matin de Torah. Donc on dit quoi ? On voit que le premier Yud-Ke du Shem Rahamim Yud-Ke Vav-Ke, il est dans Midat Adin, et le deuxième, il est dans Midat Achesed. Donc Dieu, il nous a fait une miséricorde de nous sortir d'Égypte, il est dans Midat Achesed là-bas. Il nous fait une miséricorde de nous protéger, de nous donner la Torah. C'est une miséricorde qu'il nous fait, d'accord ? Donc de ce fait, c'est le Yud du deuxième Yud-He qui va se transformer en Vav. C'est Dieu qui descend dans ce monde. Dieu est comparé à la lettre Yud. D'accord, ici. Et le Yud, quand il descend et je le rallonge, ça devient un Vav. Raison pour laquelle les chassidim, pour se rappeler ça en permanence, certains chassidim ont pour habitude de dire Malkenu, Malkeni. Pour se rappeler de ça en permanence. Non, Yud-He, Yud-He. C'est ça la question.
Vous avez dit parce que Hachem descend dans ce monde.
Oui.
Alors pourquoi pas Vav ?
Parce que Dieu, au moment du matin de Torah, hein, il n'était pas sous l'emprise et sous le sigle de la rigueur divine, Midat Adin, mais Midat Achesed. Et j'ai déjà expliqué, en réalité, le nom de Yud-Ke Vav-Ke, il fait référence à la Midat Arachamim. C'est quoi Midat Arachamim ? Si moi je prends en français, Chesed. Chesed, on va traduire par bonté, mais aussi par miséricorde. Si je prends Rahamim, Rahamim c'est quoi ? Même traduction, bonté, miséricorde. Pourquoi on a ces deux mots ? Un seul, ça suffit ou non ? C'est des synonymes ? On dit non, c'est très différent. Alors, je vais vous expliquer ce qu'explique Razal en réalité, la différence entre le Chesed et Rahamim. Chesed, c'est quelqu'un qui est miséricordieux gratuitement avec son prochain. D'accord ? Et Rahamim, c'est Chesed Shel Emet. C'est le véritable Chesed dans ce monde, la véritable miséricorde. Je donne un exemple concret. On connaît quelqu'un dans la Kihila qui a une formation professionnelle et qui a des problèmes d'argent. On a deux choix devant nous. Soit on lui donne la tzedaka chaque mois pour lui aider à nourrir sa famille. Soit on lui dit, écoute, on sait que tu as une formation professionnelle, tu as besoin un peu, juste d'une petite période d'adaptation, d'accord, pour trouver du boulot, pour peut-être suivre un stage. Durant cette période d'adaptation, on est disposé à t'aider. On va te donner une bourse d'études. Il sent qu'on est en train de lui faire la mendicité, le monsieur. Non, il garde son cavote. Il sent qu'il est en train de devenir un poids pour la Khevra. Pas du tout. Il comprend qu'on est en train de l'aider pour le réinsérer dans la société. La véritable tzedaka, c'est d'arriver à réinsérer le pauvre dans la Khevra. C'est pas de le laisser pauvre. Ça, c'est la véritable tzedaka. Ça, c'est Midat HaRachamim. Midat HaRachamim, c'est quand je sais être à la fois rigoureux avec une personne et miséricordieuse avec elle, pour l'aider à s'en sortir. À la fois dur et doux, avec la même personne, pour l'aider à s'en sortir. Midat HaChesed, je ne suis que douceur, je ne suis que gentil. Je ne vais pas lui donner de conditions, je lui dis, bon, tant que tu as besoin, je te donne. Mais un enfant, tant qu'il pleure parce qu'il a envie de bonbons, si on continue à lui donner des bonbons, c'est dur ce que je suis en train de dire, mais à la fin, il aura des caries. Un pauvre, s'il prend l'habitude qu'on lui donne la tzedaka et tous les mois, on lui donne, et on lui dit pas, attends, t'as quand même des mitzvot, c'est une mitzvah la parnassa, c'est une mitzvah travailler, c'est une mitzvah. Viens, on essaye de te responsabiliser. Oui ou non? C'est quoi le mieux? Si je sais que mon prochain, je sais qu'il est peintre. Il est peintre. C'est quoi le mieux? C'est que je lui donne la tzedaka ou je lui apporte des travaux, des chantiers, il sentira mieux comment? Comprenez ou pas? C'est Midat HaRachamim. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le nom de Yudke, le premier Yudke, c'est Midat HaDin. Le deuxième Yudke, c'est Midat HaChesed. Donc comme Dieu était miséricordieux au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, c'est le Yud, le Yud de la Midat HaDin qui est descendu dans ce monde. Et là, je vous ai simplifié. D'accord? Je simplifie le truc. Parce que c'est encore beaucoup plus joli que ça. Mais après, ça sera trop long. Ça prendrait au moins 2 heures rien que de parler de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité, ici, que à partir du moment où on comprend que Akadosh Baruch Hu, il a dû redescendre dans ce monde, d'accord, vers nous, il redévoile en réalité à ce moment-là sa face, alors que les Bnei Israël se sont déjà rebellés avant le Har Sinaï. Mais quand ils voient les Bnei Israël qui font la faute du veau d'or, et qui vont encore continuer à se rebeller dans le désert, ils n'ont pas arrêté. 10 rébellions dans le désert, hein, pas une, 10. Dieu bénisse. Pour nous, qu'est-ce qu'on voit après? On voit tout simplement que Akadosh Baruch Hu, il va recacher sa face au Bnei Israël. Comme il a caché sa face à Avel, comme il était disposé à nous la dévoiler à nous, par le mérite des Avot, il nous l'a caché. Donc, on est dans une klala de Esther Panim. Avec un hé. D'accord? Maintenant, on voit Esther Panim, on voit arriver Esther. Avec un Aleph. D'accord? Qui veut dire « je me cacherai ». Ça veut dire quoi, Esther avec un Aleph, quand elle se cache? Le Aleph, il fait référence qu'à Kadosh Baruch Hu. Aleph, c'est Echad, c'est Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le Aleph, comment je l'écris? En loi de Sofrout. Un Sofer al-Pi al-Acha, il doit faire un Vav et deux Yud, un en haut, un en bas. On peut l'écrire avec deux Dalet ou deux Resh, mais on voit que dans l'Alacha, on fait un Vav et deux Yud. Pas un Dalet et pas un Resh. D'accord? C'est quoi le Vav au milieu? Si, c'est un Vav. Et les deux Yud, c'est 10 et 10, c'est 26, ça fait référence au nom de Yud Kevavke. Oui ou non? Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un midrash qui rapporte qu'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment où il s'est dévoilé au Har Sinaï, il avait changé toute la génétique des Bnei Israël, toute la génétique de l'humanité, parce qu'il se redévoilait à nous. Il a dû provoquer des changements dans les codes génétiques des gens. C'est extraordinaire. Et là, on nous dit, à partir de ce moment-là, le Zohar nous rapporte que Akadosh Baruch Hu a placé en chacun d'entre nous des Yud et des Vav et des Aleph pour nous donner la vie. Je ne comprends pas de quoi on parle. Mais quand je regarde les chromosomes, il y a le X et il y a le Y. Le X, c'est un Aleph. Le Aleph, c'est un Vav avec deux Yud. Ou non? Et le Y, c'est un Vav avec deux Yud en haut. C'est les mêmes lettres. Donc on comprend mieux ce qu'il nous dit le Zohar, en réalité. Que là, on nous dit que Dieu, il a dû changer toute la génétique de l'humanité, à partir du Matan Torah. C'est-à-dire, les hommes, avant, il y avait des hommes qui pouvaient être vraiment géants, d'accord? À partir de ce moment-là, les hommes ont commencé une évolution génétique pour que les hommes deviennent de moins en moins géants. Si on prend Og et Sichon, qui ont vécu la période du Maboul, selon le Midrash, on parle surtout de Og, D'accord ? On voit que, si on parle d'eux, tout simplement, on voit que c'était des géants bien plus grands que Goliath. D'accord ? Donc on voit à partir de ce moment-là, hein, que, tout simplement, la génétique des hommes a été manipulée à partir de ce moment-là pour que, avec le temps, les hommes vivent de moins en moins longtemps. D'accord ? Pour que, tout simplement, c'était un chesed d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il voyait que les hommes étaient appelés à fauter. Donc pour ne pas les laisser trop longtemps sur Terre, il a réduit leur temps de vie. C'est écrit dans le Zohar. Donc le Zohar, quelque part, nous rappelle la théorie de l'évolution. Ça, c'est un autre cours, Bezrat Hashem. Maintenant, on voit en réalité ici une chose qui est extraordinaire. À partir de ce moment où moi, je comprends ça, je comprends en réalité que Dieu, il se cache en chacun d'entre nous. Il y a Chochmat Apartsoufim, c'est un des livres du Harizal. Ou là-bas même, dans le Hotsrot Chaim, le premier livre de Kabbalah, introduction aux lois de, aux enseignements de la Kabbalah, on nous rapporte que quand on regarde le visage d'une personne, on peut arriver à savoir quel est son lien avec Dieu et quel type de personne on a en face de nous. Pourquoi ? Si je regarde bien, mes narines, elles peuvent être en forme de Yud. Non ? Mon nez peut être en forme de Vav. Je peux avoir un Aleph au milieu du visage. Non ? C'est... Non ? Mais ça peut vous faire rire, c'est ce qui est expliqué. La forme des oreilles. Chaque membre du corps prend la forme d'une des lettres de l'alphabet hébraïque. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a créé ce monde avec les lettres de feu de la Torah, qui sont les lettres de l'alphabet hébraïque. Oh. Suivez là ce que je suis en train de vous dire ? Très bien. Donc, Baruch HaShem, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est dans une plaie là où Dieu il s'est caché à nous. Daniel Hanavi, qui est dans la Megillat Esther ? Vous êtes au courant qu'il est dans la Megillat ? Quelqu'un est au courant que Daniel est dans la Megillah ou pas ? Vous n'êtes pas au courant qu'il est dans la Megillah ? Non ? On va voir ça dans une seconde. Bezrat Hashem. Hein ?
Par rapport au rêve ?
Non, non, non. Par rapport au rêve dont j'ai parlé plutôt. On voit qu'à la niveau de Daniel qui nous parle de la Géoula, des années, etc. D'accord ? Bref. C'est Hattar. Hattar. Pourquoi il s'appelle Hattar ? Parce qu'il faut savoir que chez les Perses, d'accord, jusqu'à aujourd'hui en Iran, le Re, il n'existe pas. C'est un des rares pays qui fait partie de la Mésopotamie et du Moyen-Orient où ils n'ont pas cette lettre gutturale de Re. Ils n'ont pas le Re. D'accord ? À chaque fois qu'on va dire le Het, eux, le Het, ils transforment en quoi ? En Re. Donc, en réalité, Hattar, on devrait l'appeler Hattar. D'accord ? Qui est un des noms de Dieu, Alpi Kabbalah, c'est pas trop bien de le dire, mais on va expliquer quand même les choses. On voit que quand on a un problème de Parnassa, c'est un nom auquel il est bon de penser. D'accord ? C'est pour que Dieu nous coupe de toutes les mauvaises sanctions. C'est-à-dire couper, Roter. D'accord ? Mais on voit ici, pourquoi on l'appelle Khatar, en réalité ? Parce que Khatru, Mimalchuto, on lui a enlevé tous ses pouvoirs. Daniel a grandi dans la maison de Nabucodonosor après la destruction du premier temple. Et c'était un des conseillers de Nabucodonosor. Il est même devenu ministre de Nabucodonosor. Quand Achashverosh, qui était l'écuyer en chef de Nebuchadnezzar, vous êtes au courant de cette histoire ? Vous êtes tous au courant ? Je la raconte quand même. Bon, c'était l'écuyer en chef, il s'occupait des chevaux d'Achashverosh. D'accord ? Il s'est rebellé contre Achashverosh, il l'a fait tuer. Pardon ? Hein ? De Nabucodonosor, excuse-moi. Achashverosh, c'était l'écuyer en chef de Nabucodonosor, c'était un écuyer important, mais un écuyer, d'accord ? Il a fait tuer Nabucodonosor, et c'est lui, il s'est imposé en tant que roi, il a soulevé une armée, etc., il s'est imposé en tant que roi, tout simplement, d'accord ? On voit quoi en réalité ? Il a pris le conseiller le plus proche de Nebuchadnezzar, et il en a fait, entre guillemets, un eunuque pour s'occuper de ses femmes, c'était Daniel. C'est terrible, Daniel Hanavi, comment on le voit en réalité, où il arrive, d'accord ? On voit que Daniel Hanavi, il est dans la Megillah. Et on voit que Esther, c'est Hattar qu'elle envoie pour parler à Mordechai, quand Mordechai s'assoit devant la porte du roi Achashverosh. Mais Sha'aré Amelech, on ne dit pas Achashverosh, mais Sha'aré Amelech, peut-être devant les portes du ciel aussi, en train d'étudier la Torah. Et le Midrash nous rapporte qu'en réalité, il était assis par terre, en tenue de deuil, mais en réalité, il passait son temps à étudier la Torah pour demander à Kadosh Baruch Hu de l'aider. Donc il était à la fois physiquement devant la porte du palais de Achashverosh et à la fois spirituellement devant les portes du ciel pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Suivez là ou pas ? Donc on voit en réalité qu'à travers les miracles cachés de Purim, C'est une occasion pour nous. La fête de Pourim, il ne faut pas oublier qu'on appelle ça la Géoula des Rabbanan. Et qu'on se prépare à partir de Pourim, 30 jours plus tard, c'est Pessah. Une halakha nous rapporte que 30 jours avant la moindre fête, il faut commencer à étudier et réviser les halakhot de cette même fête. Donc à partir de Pourim, on commence à faire chazara sur les lois de Pessah. Même, il est même bien à la fin de la Séouda de Pourim de dire quelques halakhot sur Pessah. Oui ? Et de rappeler aux enfants de faire attention avec les Mishlochei Manot. Parce que c'est extraordinaire, les Mishlochei Manot. Hein. Nous, 30 jours avant Pessah, hein, c'est des gaufres et des gâteaux et des choses. Rien n'est caché à les Pessah. Et on rentre ça partout dans la maison ? Oui ou non ? Voilà, on voit que après, c'est pour ça que c'est conseillé aux femmes, même si elles se préparent à l'avance, Dieu bénisse pour elles, de commencer réellement les choses du Pessah après Pourim, parce que sinon c'est une crise de nerfs. Pendant Pourim, pour la femme, la pauvre, si elle a commencé à nettoyer la maison, elle voit les enfants avec les chocolats qui vont commencer à tourner un petit peu partout. Ou alors on fait un autre système. Nous, c'est ce qu'on fait à la maison, on commence déjà le nettoyage avant Pourim, bah, au Hachem, et on demande aux enfants, de façon ludique, à mettre des panneaux interdits d'entrée pour le Hametz. Donc chaque année, ils font des petits dessins sympathiques, interdits d'entrée. Et en réalité, nous, eux, ils pensent que c'est pour nous, pour que nous, on se rappelle de ne pas rentrer dans les chambres et tout le monde. Mais eux, en faisant les panneaux, ils vont se rappeler en tête que dans ces chambres-là, il ne faut pas rentrer de Hametz. Bah, au Hachem. Donc c'est tout simplement une façon d'éduquer les enfants. Donc voilà. Donc faire attention et de rappeler aux enfants que pendant Pourim, il faut faire attention avec les Mishlochei Manot et de ne les pas rentrer n'importe où dans la maison et de ne pas s'amuser à les cacher. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à Bnei Brak. Je vous assure, c'est extraordinaire. Il y a une famille, Ben Pourat Yosef, Bnei Brak, il faut bien comprendre, hein. Tous les voisins, ils vous ramènent des Mishlochei Manot. S'il y en a, il est un petit peu rabbin, donc il y a en plus les élèves, les gens qui viennent, etc. On peut se retrouver à la maison avec des centaines et des centaines de Mishlochei Manot. Je n'exagère pas quand je vous dis ça. À un tel point, moi, je connais des rabbins à Bnei Brak qui ont une technique, quand ils ont un Mishlochei Manot, ils veulent pas vexer les gens. Ils reçoivent, ils le mettent à la cuisine. Après, quand les gens repartent, ils ouvrent le Mishlochei Manot, ils vont redistribuer aux autres personnes. Pour pas se retrouver avec trop de Mishlochei Manot à la maison. Après, même c'est Beltashrit de garder autant de choses. Et bientôt, c'est Pessah à la maison, donc c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, tout simplement, à partir de ce moment-là, il y avait une famille qui avait reçu plein de Mishlochei Manot, arrive à un moment donné, ils ne savaient plus où mettre les Mishlochei Manot, il y en avait partout. Ils ne savaient plus où les mettre. Et il y a un des enfants qui s'est dit, attends, les Mishlochei Manot, viens, on en met quelques-uns dans le bodem. D'accord? Dans les couloirs. Très souvent dans les appartements, dans les couloirs, il y a un faux plafond, où le plafond est plus bas. Et il y a dans une des chambres, il y a des portes, et là-bas, ils ont commencé à rentrer là-bas, les Mishlochei Manot. Et les gens, hein, ils n'ont pas l'habitude de ranger de la nourriture là-bas. Ils rangent des vieux outils, des vieux kélim, des vieux trucs. Donc la mère, elle s'est dit, bon, un endroit où on n'a pas l'habitude de rentrer du Hametz, sous les enfants à la maison, ils sont grands, ils ne vont pas s'amuser à mettre du Hametz n'importe où, donc j'ai pas besoin de le vérifier. C'est une halakha, non? C'est une halakha. Donc elle se dit, je vais pas vérifier là-bas. Pendant Chol HaMoed, le père, il ouvre le placard, il tombe nez à nez avec des dizaines de Mishlochei Manot. Bah, au moins, il a vendu son Hametz, il a fait Efker, il a fait tout. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a eu un gros problème. Bah, il a appelé le Beit Din, on lui a réglé son problème. Bref, mais c'était une drôle d'histoire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'éduquer les enfants dans ces inyanim-là. À la fin de la Séouda de Pourim, d'accord, de terminer sur ces mots-là. Mais on voit qu'en Afrique du Nord, pour ceux qui viennent d'Afrique du Nord, ou qui sont originaires d'Afrique du Nord, moi je viens pas d'Afrique du Nord, mais mes parents sont d'origine d'Afrique du Nord. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y avait une coutume de faire deux Séoudotes à Pourim. Ah ouais, surtout chez les Tunisiens. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Moi je dis ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit qu'il y avait un minhag de faire deux Séoudotes. Le Mishté de Pourim, et après on fait Séouda Esther. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer un truc très sympa. On voit en réalité qu'il y a un Nyan qui nous dit « Chaya vinish le bisoumé, ad le deloyada beporia » D'accord? « Ben Aruraman ou Baruch Mordechai » C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Donc c'est une misva le jour de Pourim pour un homme de s'enivrer jusqu'à qu'il ne sache plus faire la différence entre Aruraman et Baruch Mordechai. « Modi Aman, Beni Mordechai » Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que là-bas, le terme, c'est Inch. C'est pas Adam. Pourquoi Adam? Adam, c'est l'homme, lorsqu'il fait la volonté de Dieu, qui est capable de réparer le monde. Dans le Talmud, dans la Gemara, c'est marqué que les Ovdei Kochavim, l'on écrit au Adam. Ceux qui sont idolâtres, ils ne sont pas appelés Adam. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de réparer ce monde selon l'ordonnance divine, vu qu'ils sont idolâtres. On ne parle pas des non-juifs, on parle des idolâtres. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit de ce côté-là, quand on dit Inch, on fait référence à une personne qui n'est pas capable de réparer ce monde. C'est Inish. c'est ça qui fait référence à Enoch. Donc l'humanité après la faute. Enoch, un des descendants de Adam. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité, d'accord ? On voit en réalité que, par rapport à tout ça, que Akadosh Baruch Hu, il nous dit que l'homme, même le plus loin, s'il vient à fauter, Khayav les bisoumé. C'est quoi bisoumé ? S'enivrer, on dit, mais bisoumé, ça vient de Bossem. Ça fait référence au parfum. Ça, on doit se parfumer au vin. Oui ou non ? En réalité, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que c'est une misva de boire. Maintenant, dans la halakha, on voit clairement que si une personne, si elle vient à boire, elle risque de faire un chilul Hashem parce qu'elle va mal se comporter ou risque de devenir violente ou gênante ou avoir un comportement qui n'est pas socialement recevable, d'accord, convenable, il faudra mieux que cette personne s'abstienne de boire. Si une personne a des problèmes avec l'alcool, ne supporte pas l'alcool, elle n'est pas obligée de boire du tout, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité qu'ici, quand on nous dit s'enivrer, c'est on parle de l'odorat. Maintenant, le Zohar, il nous rapporte que n'importe quel homme, il a appelé n'importe quelle personne dans ce monde, il a une part de sainteté en lui, parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Donc, n'importe quelle personne est appelée Kadosh. Pour quelle raison ? On dit, regarde, Dieu, il a introduit en l'homme la Neshama par le nez. Oui ou non ? Neshama, ça vient du Lachon Neshima. La racine, c'est Neshem, c'est la respiration. Si je respire, c'est que j'ai encore une Neshama dans mon corps. Donc, en rapport avec le corps, en tout cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité qu'on nous rapporte que l'odorat, le nez, c'est le sens et le membre avec lequel on est le moins appelé à fauter. De ce fait, il y a toujours une part de Kedusha en nous par rapport au fait qu'on ait un nez au milieu de notre visage. Et c'est important parce qu'on voit que le nez, c'est un vav avec deux yud. Yud que... Non, c'est 26. Mais attends, je sais comme ça. Mais attends, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici qu'il y a toujours une Kedusha. Une Kedusha. Et on voit que c'est par ce membre-là que Dieu, il a introduit l'âme dans l'homme. Maintenant, par rapport à ça, on voit que n'importe quel homme, même le plus loin de la Torah, de ce fait, ne doit pas être critiqué. On nous dit tout simplement qu'il ne faut pas détester le rachat, mais ses actes. C'est-à-dire que même quelqu'un, il n'est pas religieux, ou il est un petit peu loin, ou il est un peu, il n'a pas compris l'importance, il ne croit pas, etc., etc., on ne peut pas parler négativement de lui. C'est ce que nous dit le Zohar. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours une part de lui, en lui, de Kedusha, vu qu'il respire. Il a un nez au milieu de son visage. Pour arriver à fauter avec son nez, il faut vraiment en vouloir. D'accord ? Pour arriver à fauter avec son odorat, bon, il y a des halakhot où on voit qu'il est possible de faire des avérotes avec son odorat. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est le membre du corps avec lequel on est appelé le moins à fauter. Donc il y a une part en nous de Kedusha. C'est pour ça qu'on dit Chayav Inish. Même s'il est loin, il a un nez au milieu du visage. D'accord ? Donc même s'il boit beaucoup, il se comporte mal, on ne doit pas mal le juger. Tout simplement. D'accord ? Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, il y a une chose qui est beaucoup plus grande. On voit que dans Shara Kavanot, le Harizal, il rapporte que les deux obligations durant la Siouda du Mishté, c'est Shtiyav et Achila. D'accord ? De la même façon, dans les Mishlo Achmanot, il est rapporté qu'on doit donner deux sortes d'aliments, pour que ce soit un Mishlo Achmanot, ou Mizva Minamufra, c'est mieux, on peut donner deux sortes d'aliments, hein. C'est deux sortes de brachot différentes. Donc un bonbon avec un gâteau, ça passe. C'est un Mishlo Achmanot. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit mieux que ça. Mizva Minamufra. D'accord ? Tout simplement, on voit qu'on est yotzé de la mitzvah du Mishloach Manot, contrairement à ce que les gens croient, en donnant qu'un seul Mishloach Manot à une seule personne. Pas deux Mishloach Manot. Il faut donner la tzedaka pour deux pauvres. Donc, Matanot la Evionim, il faut donner pour deux pauvres. C'est la Evionim. La Evionim, c'est deux pauvres. Le pluriel commence à partir de deux. Donc, je dois donner la tzedaka au moins pour deux pauvres à Purim. D'accord ? Mais le Mishloach Manot, c'est qu'un seul Mishloach Manot avec deux sortes d'aliments différents. Mizva Minamufra, qui est une boisson. Et un aliment qu'on mange. Pourquoi ? Pour avoir l'ashtia et la harkila. Que si une personne n'a pas de quoi faire le michté, elle a au moins cette boisson et cet aliment, il peut faire son michté. Donc, beaucoup de gens l'ignorent, mais le top du top à offrir aux gens, c'est une petite bouteille de vin ou une petite bouteille de jus de raisin aux gens, d'accord ? Avec une petite rala. Donc, un petit motzi et un petit yageffen. Oui ? Avec un petit vin. Et là, on a fait un super Mishloach Manot. Il y a une très grande Kedusha dans un Mishloach Manot comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Pourquoi ? Parce que durant le Mishté, il y a deux obligations. Shtiya et Achila. Si un monsieur n'a que mangé et n'a pas bu, d'accord ? Lo yatsa mina mizva. S'il a que bu, il n'a pas mangé. Attention, il y en a beaucoup qui font cette erreur parce qu'ils boivent au début le vin. Arrivent au moment de manger, ils sont pas très bien. D'accord ? Il n'a pas fait la mizva non plus. Pourquoi Shtiya et Achila ? Regardez. Shtiya, comment j'écris ? Shatia. Je peux interpréter ça de deux façons. Voguer avec Dieu, et c'est Yudke là, hein. Oui ou non ? Ou alors, boire, et à travers la boisson, me relier avec Dieu. Ya. Et après, achila, c'est quoi achila? Achal, qu'est-ce qui reste comme lettre? Encore ya. Yud he. Encore une fois. D'accord? Ça veut dire quoi? À travers shtiya ve achila, on fait le tikkun du nom de Dieu dans la création, à travers la gioula des rabbanan, où c'est une goula qui est arrivée, où elle n'était pas dévoilée à nos yeux, mais il faut savoir qu'à cette époque, il y avait des Nevi'im, et on va le voir dans une minute, on va le prouver. Déjà, il y avait Daniel, un Navi. Maintenant, les gens ne savent pas. Esther, elle était Nevi'a. Mordechai, il était Navi aussi. Il y avait plein de Nevi'im durant cette génération-là. C'est grave quand même. Hein. Maintenant, hein, pourquoi c'est grave? Parce que les Israélites ont réussi à se rebeller contre un Navi, un prophète, parce que le fameux repas d'Achashverosh qui a eu lieu un an avant que la Xéra n'éclate. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le fameux repas qui a duré 6 mois d'Achashverosh pour célébrer l'agrandissement de son royaume, tout simplement. On voit que ce fameux repas où il a fait inviter les juifs, il leur a fait des repas cachers, la méadrine, mina méadrine. Mordechai, il leur a dit, n'avait pas participé à ce repas. Il leur a dit, mais il va nous montrer les kélims du Beth Amikdash. On a envie de les voir, les kélims du Beth Amikdash. Ils étaient chez Nabucodonosor, aujourd'hui il les a, il s'est habillé en tenue de Kohen Gadol, d'accord? Il veut faire un grand repas. Là-bas, il est rapporté qu'Achashverosh a rapporté tous les plaisirs possibles imaginables en termes de boissons et en termes de dégustation. Mais il y a une seule chose qu'il n'a pas fait dans cette Seouda, il n'a pas ramené d'orchestre pour jouer de la musique. Pourquoi? Parce que la musique adoucit les mœurs et permet aussi la teshuvah. Raison pour laquelle, dans le Ham Ayehoudi, on voit que dans le Beth Amikdash, on jouait des instruments de musique. On voit que tous nos grands prophètes jouaient de la musique, ou savaient jouer d'un instrument, d'accord? On voit qu'ils ont tous... Bon, cher Rabbeinu, avec ses Khatotrot, d'accord? D'accord? Mais on voit aussi, tout simplement, David Ameler. Oui? Il jouait de la harpe, du violon. Et dans le Beth Amikdash, on jouait des instruments pour accompagner les korbanot et chanter des mizmorim. Et des trucs. Donc on voit que la musique, elle a une grande part. Dans la prière, nous, on chante. Normalement, quand on prend le temps de prier. C'est plus sympa de chanter. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité que c'est le seul plaisir qu'Achashverosh n'a pas ramené. De peur que les Yehoudim fassent teshuva durant ce repas. Et pendant le repas, il les a fait boire. Jusqu'à que durant Shabbat, il a commencé à enlever les Yehoudim Hatzeroth. Eux, ils étaient dans la cour du roi. Et là-bas, il avait fait des tentures pour fermer et faire un hérouf. Il a enlevé les tentures pour que les juifs commencent à porter Shabbat. Doucement. Après, il les a fait faire une avéra, une autre avéra, une autre avéra, une autre avéra. Il a commencé à leur faire manger non cachère, etc. Après, il leur a fait faire plusieurs avéra. Il leur a dit, bon, vous voulez voir l'équilibre? Vous êtes plus à ça près. Allez, prosternez-vous devant l'idole. D'accord? Ils sont prosternés. Pour voir l'équilibre. Et ils ont fauté. Donc on voit que les Bnei Israël n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais Mordechai, il les a avertis. En plus, c'est un avis. Et c'est le Rosh Sanhedrin. Il y avait le Sanhedrin à Babel. Le Rosh Sanhedrin, c'est Mordechai. À la tête d'un conseil de 120 sages. Les 120 sages étaient tous Nevi'im. Vous comprenez là ou pas? 120 Nevi'im à la tête du peuple. Ils n'ont pas écouté? Ça ressemble à quoi? À la Géoula des Rabbanan. Pourquoi? Les Bnei Israël, au moment de la sortie d'Égypte, ils n'ont pas voulu croire Moshe Aaron, des Nevi'im, Myriam, ils n'ont pas voulu la croire. Ils n'ont pas voulu croire le Nevi'im. Ils sont rebellés, ils ont fait la faute du veau d'or, ils sont rebellés dans le désert. Oui ou non? Qu'à la fin, on a eu le Matan Torah, on dit que Purim, c'est le Matan Torah des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est une fête des Rabbanan. C'est une fête des Rabbanan. Mais la rébellion, c'est la même. Sauf que la rébellion, là, elle est plus grave. 120 prophètes. Ils n'écoutent pas? Bah, jusqu'à aujourd'hui, on a du mal à écouter. Hein. Il n'y a pas de prophète avec ça. Hein. Donc, comme on dit chez nous en anglais, Khali. Alors maintenant, donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit en réalité que du fait de comprendre à quel point c'était Khamour la faute d'Ebn Israël à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu était très en colère contre nous. Donc de là, on comprend pourquoi il permet à Aman, contre 10 000 pièces d'argent, qui carré Kesef, de racheter le droit de tuer les Bnei Israël. Maintenant, attendez. Il y a un truc qui est extraordinaire. On voit que les Bnei Israël, quand ils ont donné pour la première fois Machatzit HaShekel, chacun Machatzit HaShekel, c'était Machatzit HaShekel, c'était Shekel à Kodesh, qui est en argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? La somme que ça faisait en Kikaré Kesef, vous savez combien? 10 000. La même. C'est extraordinaire ou pas? Donc, on voit par le mérite du Machatzit HaShekel qu'on a donné après la faute du veau d'or, pour l'inauguration du Mishkan, par ce mérite-là, Akadosh Baruch Hu nous a permis avec le temps, plus tard, de pouvoir annuler l'exéra de Haman. Mieux que ça. Il est rapporté dans la Gemara que quand Haman est venu, il a donné les 10 000 pièces d'argent. Lui, dans sa tête, comme dans la Torah, il avait marqué que les hommes étaient 600 000 hommes quand ils sont sortis d'Égypte, pour lui, il y avait 600 000 hommes dans tous les royaumes de Achashverosh pour pouvoir les tuer. Parce que le juif, c'est que 600 000, pas plus, dans sa tête. Donc quand il donne les 10 000 pièces d'argent, dans sa tête, il achète le droit de tuer les hommes. Le Baal Tosfot d'Avdalet, Amoud Aleph, dans Masechet Megillah, rapporte, à cause de ça, d'accord, entre guillemets, ce point-là, de dire que les femmes n'ont pas l'obligation réelle d'élire la Megillah, alors que c'est marqué dans la Megillah, hein, qu'on a tous l'obligation de lire et d'écouter la Megillah. Tous l'obligation, hein. On le dit à la fin de la Megillah, oui ou non? Oui, Varim Nashim Vataf. De la même façon que Dieu a voulu éliminer les hommes, les femmes et les enfants, de la même façon les hommes et les femmes et les enfants, chaque année à Pourim, ont l'obligation d'écouter la Megillah. Et là, Baal Tosfot, il dit non, parce que c'est un safek. Pourquoi c'est un safek? Parce qu'on n'est pas sûr qu'Aman, il a voulu tuer vraiment les femmes. Pourquoi? Il a donné que 10 000 pièces d'argent. 10 000 pièces d'argent pour les 600 000 hommes. Le Midrash t'en rapporte en réalité que des 10 000 pièces d'argent, il a dit, moi, quand j'achète les hommes, j'achète aussi leurs femmes avec eux et leurs enfants. Vu que les bénis Israël, quand ils donnaient les machatit à Shekel, c'était que les hommes qui étaient déjà mariés. À 20 ans, ils étaient mariés quand ils donnaient les machatit à Shekel dans le désert. Donc moi, si j'achète les hommes avec eux, j'achète leurs femmes et leurs enfants. Oui ou non? Donc tout le monde dit le Baal Tosfot, qu'est-ce qu'il raconte là? N'importe quoi. Ça va à tel point que tous les posts qui me rapportent que la femme, en réalité, elle aurait l'obligation d'écouter la Megillah. Alors à cause de cette marloquette, alors il y a ceux qui disent, est-ce que la femme elle peut faire la bracha ou est-ce qu'elle ne fait pas la bracha? Et si on lit aux femmes, est-ce qu'on fait la bracha ou on ne fait pas la bracha? Raison pour laquelle il est de coutume de ne pas faire la bracha avant de dire la Megillah aux femmes. Ou que les femmes qui disent la Megillah ne font pas la bracha. Maintenant, si des femmes se réunissent en minyan, c'est important, et veulent lire la Megillah entre elles, et qu'il y a une femme qui sait lire, et qu'elles sont en minyan, cette femme, elle a sur quoi se reposer pour pouvoir faire la bracha? Oh! Comprenez ou pas? Le Tour et Even, il nous rapporte une chose extraordinaire. Il nous rapporte en réalité que, en réalité, toute la takana de la lecture de la Megillah et de l'affaire de Pourim, c'est Alpine et Voix, parce que Mordechai, c'est le Navi. Qui a instauré la lecture de la Megillah? Et qui a écrit la Megillah Esther? Mordechai et Esther, qui sont Nivim. Donc toute cette takana, c'est Alpine et Voix. C'est pas des rabbanim qui un jour se sont dit, venez, on va faire une fête, on va lire la Megillah, parce que c'est un événement important pour nous, alors, événement national important. D'accord? On va faire une grande fête. Pas du tout. En réalité, on voit que c'est une takana alpinévoie. Donc il rapporte ça avec que dans la première takana, le Tour à Even veut dire que dans la première takana, c'était pas marqué que les femmes étaient obligées de lire la Megillah, raison pour laquelle elles font pas la bracha. Rabbi Akiva Eger, il rapporte le Rajbam, il rapporte le Rambam, il rapporte tous les poskim, il dit, il raconte n'importe quoi le Tour à Even. Il n'y a aucune trace nulle part, ni dans le Midrash, ni dans la Gemara, ni nulle part, que Mordechai il a eu deux takanot. Il n'y a qu'une seule takana dès le départ, et les hommes, les femmes et les enfants doivent lire la Megillah. Raison pour lesquelles, mesdames, vous devez écouter la lecture de la Megillah.
Et les enfants, à partir de quel âge?
À partir du Gil Achinoch, à partir de l'âge où ils savent s'asseoir et écouter la Megillah. À partir de 7 ans, ils ont l'obligation d'écouter la Megillah. Mais si plus petits que ça, ils savent s'asseoir et écouter, c'est bien. Sinon, c'est bien d'organiser une lecture pour les enfants. D'accord? Moi, je dis une lecture pour les enfants parce que je trouve ça injuste de faire des lectures pour les femmes et les enfants. Pourquoi les femmes, elles devraient écouter la Megillah avec la bzaza des gosses au milieu? Moi, je dis ça que ça, hein. Je dis ça comme ça. Hein. Moi, le soir de Pourim, je fais trois lectures. Première lecture pour les hommes, deuxième lecture pour les femmes, troisième lecture pour les enfants. Pourquoi? Parce que pendant que les hommes écoutent, les femmes, elles gardent des enfants. Pendant que les femmes écoutent, les hommes, ils gardent des enfants. Après, les parents, ils viennent et on fait la cipra aux enfants. Et là, je fais le clown. Maintenant, hein, c'est la seule fois dans l'année, enfin bon. Pas vraiment, mais c'est pas grave. Mais attends, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que on comprend mieux en réalité la dimension de la fête de Pourim pour nous, qu'on l'appelle Géoula des Rabbanan maintenant. Parce que c'est une rébellion. Et c'est, on vient célébrer une ordonnance rabbinique, entre guillemets, c'est une fête rabbinique, mais qui a été placée et ordonnée sous la prophétie de Mordechai et de Esther. Donc c'est une véritable prophétie en réalité. Raison pour laquelle la Megillah fait partie des Kitvei HaKodesh, des Écritures Saintes. Il y a une Kedusha sur une Megillah. Même s'il n'y a pas le nom de Dieu, c'est une question qu'on pose. Pourquoi? Parce que c'est une takana alpinévoie. C'est pas n'importe quoi ce qu'on est en train de vous lire le jour de Pourim. On voit en réalité que de la même façon que Dieu a dit qu'il devait se cacher parce qu'on s'est rebellé, de la même façon, il est rapporté dans le Zohar que Dieu se cachera à nous pour nous permettre tout simplement de revenir vers lui. Donc on voit que le miracle de Pourim, il est caché. Il y a une chose extraordinaire. Dans le Perek Gimel, on voit que le premier pasouk dans Perek Gimel, c'est « Achar advarim ha'ele gidal ha'melech ha'chashverosh et aman ben amdata agagi » D'accord? Donc on voit après le récit de la rébellion, de la tentative d'attentat de Bigtan et Teresh, que quand Mordechai il était aux portes du roi, il a entendu Bigtan et Teresh, qui sont les cousins de Vashti, et aussi de la famille à Aman, qui n'étaient pas contents parce qu'ils ont pris, parce qu'ils ont, ils ont proposé plein de jeunes filles en mariage à Achashverosh après la mort de Vashti, et que Achashverosh il a pris pour femme la cousine de Mordechai. C'est marqué Bat Dodo, hein. Oui ou non? Sa cousine. La fille de Avichai. Oui, l'oncle de Mordechai. Donc c'est sa cousine qui épouse sa cousine, en réalité. Et on dit que Mordechai omen est Esther. D'accord? Il a éduqué Esther. Pourquoi omen? C'est quoi l'éducation? C'est d'apprendre à un enfant à répondre amen. Donc de là, on comprend que Esther, petite, était placée chez Mordechai. Et que par la suite, Mordechai va épouser sa cousine, entre guillemets. D'accord? Mais tant quel âge elle avait, Esther, au moment où on l'apprend, et la fameuse jeune fille extraordinaire, 70 ans. Non seulement ça, mais on dit elle est hérocrète. Ça veut dire quoi? Elle avait la vérole. Elle avait la peau verte. Hein? C'est un miracle quand même, cette histoire. C'est un S. Et tout ça, c'est caché. On ne le dit pas clairement dans la Haggadah. Dans la Megillah, pardon. Je me prépare déjà pour Pessah, moi. Donc, on voit, hein? On ne le voit pas clairement, hein? On ne le voit pas clairement, hein, dans la Megillah. Ce n'est pas dit clairement. Tout ça, c'est des points qui sont cachés. Mais en réalité, quand on dit Gidal, on nous rapporte que là-bas, que tout le monde se prosternait devant Aman. À l'ordre, sous l'ordre du roi. D'accord ? Vechol avde amelech, asher bishar amelech, korim ou ishtachavim la Aman, ki chen sivalo amelech, ou mordechai lo richav et lo ishtachavim. Donc, tout le monde se prosternait sous l'ordre du roi, devant Aman, qui lui ont dit, certains disent autour de son cou, d'autres la boucle de sa ceinture, il avait une petite statue d'idole, d'accord, pour obliger les gens à faire l'idolâtrie. Et on voit que les gens qui avaient un rang social important, ils n'étaient que Korim, d'accord, ils ne faisaient que baisser la tête, et que ceux qui avaient un rang moins important, ils étaient Mishtachavim, ils devaient mettre leur tête face au sol. Donc carrément s'allonger sur le sol pour... D'accord ? C'est pour ça qu'on dit Korim ou Mishtachavim. Chacun par rapport à son rang social. Tout le monde devait saluer, même les gens importants de la cour, devaient saluer Aman et courber les chines devant lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité ? On voit en réalité que là, un point qui est extraordinaire, il est rapporté qu'il a été grandi. Bon, très bien. Et juste après toutes ces histoires, on nous rapporte que lui, justement, il commence à vérifier dans les mois de l'année, en utilisant une méthode de pour, donc de tirage au sort, à travers des noms d'Avodazara, savoir quels sont les mois de l'année où les ministres n'ont pas de mazal. Au mois de Hadar, tout simplement, il n'y a pas de fête, mais il a oublié qu'au mois de Hadar, premièrement, on commence les travaux pour le Mishkan. Au mois de Hadar, on commence les travaux pour le Mishkan. On se prépare à l'inauguration du Mishkan aussi, durant le mois de Hadar. Et c'est la période où Moshe Rabbeinu a quitté les ministres. Mais aussi la période où Moshe Rabbeinu, il est venu au monde. Au mois de Hadar. Donc ce n'est pas un petit mois de rien du tout. Raison pour laquelle dans le Midrash, il est rapporté, il y a Wanavi, quand il entend parler de la Xéra, il monte dans le ciel, il dit, attendez, mais il faut aligner cette Xéra qui a été signée entre Aman et Mordechai. Et là, dans le ciel, on dit qu'il va voir Avraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde lui dit, on ne peut rien faire, trouve le Moshe Rabbeinu, va voir Moshe Rabbeinu, il va voir Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il a dit, trouve mon équivalent dans la génération. C'est qui son équivalent dans la génération? Mordechai. Hein? Bon, elle est connue cette histoire. Et après... Tout simplement, Eliyahu Hanavi, il trouve Mordechai. C'est qui Eliyahu Hanavi dans la Megillah? Harvona. Harvona, c'est intéressant parce que c'est l'aide de Chorban, Hachem. Si on a détruit Dieu, parce qu'on n'a pas fait la Torah comme il faut. Comment on a détruit Dieu? D'accord? Destruction du premier temple. Après destruction du premier temple, la galoute de Babel. Galoute de Babel, le repas avec Achashverosh. On détruit Akadosh Baruch Hu, on ne fait pas sa Torah. Oui ou non? Tout simplement. Pour ça qu'à la fin de la Megillah, on dit quoi? Charbona Zachur. Zachur Letov. Oui, parce qu'on fait référence à Eliyahu Hanavi. Il est ici, dans l'histoire. Et c'est lui qui va retrouver Mordechai dans l'histoire. Pour lui expliquer la Xéra. Pourquoi il a besoin, Eliyahu Hanavi, d'aller voir Mordechai pour lui expliquer qu'il y a un contrat signé entre Aman et Achashverosh. Il envoie une lettre, une higuérette à tous les apartémim, non, à tous les chefs des 127 pays. Ou non, on envoie aux 127 chefs de pays une ordonnance pour leur dire que tous les bénis Israël, dans un an, vont devoir être mis à mort. Donc tout le monde était au courant, oui ou non? Nous, qu'est-ce qu'on comprend de l'histoire? C'est que les bénis Israël ont été avertis un an avant qu'ils allaient être mis à mort dans un an, et qu'ils ont commencé à faire teshuva durant un an. Donc durant un an, ils mettent les sacs, ils mettent les cendres sur le visage, ils prient avec Mordechai, etc., etc. Pas du tout. Pendant un an, c'était que Mordechai. Que Mordechai. Le Midrash, qu'est-ce qu'il rapporte en réalité? On voit en réalité que la crainte de Haman sur les Israël n'a duré que 70 jours. Et que la célébrité de Haman dans les 127 pays de Ahasuerosh n'a duré que durant ces 70 jours. Comment on le voit tout simplement? Parce qu'on voit que la lettre finale que Haman va envoyer pour dire qu'on doit mettre à mort tous les Israël, un an avant, il a averti que Haman a fait passer un nouveau projet de loi dans les 127 pays et qui sera mis en place un an plus tard. Donc on envoie une première aiguillette aux chefs de pays pour leur dire dans un an, préparez-vous, les Bnei Israël vont être mis à mort, mais ne le dites à personne, il n'y a que vous qui êtes au courant. Donc il n'y avait que le roi, Haman, et les chefs d'État qui étaient au courant. Personne n'était au courant. Raison pour laquelle Eliyahu HaNavi dans le ciel, il s'est rebellé, il dit mais il faut mettre quelqu'un au courant. Et il est parti voir Mordechai, qui était le seul à être au courant, qui lui pendant un an il était devant la porte du roi. Suivez ou pas? En réalité. Mais en réalité, on voit qu'entre la période où Haman va envoyer sa higuérette, d'accord, et la dernière higuérette pour avertir que les ministres d'Israël devaient être mis à mort, d'accord, et la période et le temps où Mordechai, par la suite avec Esther, vont recevoir l'autorisation d'Achashverosh d'envoyer une autre higuérette pour inverser la sentence et permettre aux ministres d'Israël de pouvoir tout simplement prendre le dessus sur les hommes de Haman dans les sévères de ce pays qui se préparaient à tuer les Bnei Israël, il y a eu une période de 70 jours uniquement. Donc la Xéra, pour nous, elle a duré 70 jours uniquement. Et c'est durant cette période-là, réellement, qu'on a fait Teshuvah et qu'on a cherché à se renforcer, etc. Ça a duré 70 jours. 70 jours. Keneged, Shivim Panim la Torah. C'est ça qu'on nous rapporte dans Zohar Hadash. 70 jours pour les 70 facettes de la Torah. Pourquoi? Parce que les Israël, à travers cette échouva-là, ils ont réussi à comprendre l'importance des prophètes, des Nevim, des Rabbanim, de la Torah, et l'importance d'étudier la Torah et de l'appliquer, parce que c'est ça qui nous protège réellement. Et ça qu'on célèbre. C'est qu'on célèbre quoi à Purim? On célèbre le don de la Torah des Rabbanan. Donc pas uniquement le don des livres de la Torah, Chamisha Chumshe Torah, pas ça. Mais aussi les lois des Rabbanan, donc tout le Talmud, la Mishnah, la Gemara, c'est ce jour-là qu'on célèbre cela. Parce que c'est à travers ça qu'on arrive à vivre, parce que c'est ces enseignements-là, de Mishnah, de Gemara, d'Halakha, qui nous permettent réellement de comprendre comment appliquer la Torah. De ce fait, il y a une couture en Afrique du Nord, dont j'ai commencé à parler, mais je ne l'ai pas terminé, qui est de faire deux séoudotes. Une première séouda, c'est le Michelet de Purim. Après, on fait Birkat Amazon. On fait des divrei Torah, on chante. Et après, on fait, avant la Shkia, on fait une deuxième séouda, et ça s'appelle Séoudat Esther. Et ce minagla, c'est quoi? C'est Esther Panim. On est Mevatel, la Xéra, dans le ciel, que Dieu a caché sa face à nous. Pourquoi? Parce que pour amener la Gioula, comme je vous ai expliqué, viendra un moment donné où Dieu se cachera à nous pour nous obliger à nous de le chercher. On voit dans la paracha Kitavo, dans les Klalot, on dit que Akadosh Baruch Hu, il nous mettra Navenad parmi les nations, sans foyer, sans raison, en exil, et on sera perdu parmi les nations et on cherchera Dieu, on cherchera à faire Teshuva. Regardez, vous prenez n'importe quel Israélien non religieux en Israël. Je vous assure que c'est vrai. Vous le laissez ici en Israël, il n'est pas religieux, il ne va pas chercher forcément à faire Teshuva. Vous l'envoyez dans une Kihila, en France, en Belgique ou ailleurs, d'un seul coup, il commence à se rapprocher de la Kihila et à faire Teshuva. Il a besoin, comme il est béré de sa Kodesh, son âme, elle sent qu'elle est en relation avec Dieu, même s'il n'est pas religieux. Alors que quand il est en dehors d'Israël, il sent qu'il est moins en relation avec Dieu, donc il cherche à se rapprocher. On a tous besoin de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité une chose qui est extraordinaire. La chose qui est extraordinaire, c'est que quand on habite en Israël et qu'on fait Torah en Mitzvot et qu'on comprend comment faire Torah en Mitzvot en ayant les bonnes kavanot, là, Dieu, il peut se dévoiler à nous. Maintenant, à un certain niveau, on ne devient pas prophète, hein, faut pas péter les plombs. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. D'accord? Parce que on sait jamais. Il y en a qui pourraient un petit peu trop boire le jour de pourri, mais maintenant, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit que, en réalité, la chose qui est extraordinaire, c'est que pourquoi on fait ces deux séoudot? Comme je l'ai rapporté. Il y a un inyan, pendant la achila, la shtia. Achila, c'est yudhe, avec achal. Shtia, c'est chat. Et ya, yudhe, d'accord? C'est à travers la boisson et à travers la nourriture d'avoir la kavana de me relier avec Dieu. Normalement, la nourriture, ça nous rappelle la gourmandise. Oui ou non? On dit non, là, tu vas manger pour te relier à Dieu, en faisant des brachot, en faisant des divrei Torah, en te rappelant le miracle de Pourim et en terminant ton repas en commençant à étudier les halakhot de Pessah. Pour montrer à Dieu que tu es dans le bon derrière. Vous non. Et de prendre chaque jour pour étudier deux halakhot sur les halakhot de Pessah. Entre Pourim et Pessah. Ça peut aider, on ne sait jamais, sur un malentendu. Et à force de faire Hazara, des fois, on peut apprendre de nouvelles choses chaque année. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit la chose qui est ici extraordinaire. À partir de ce moment-là, la première Siouda, c'est quoi? On voit que, comme je l'ai expliqué, il faut faire le tikkun de Dieu. C'est quoi le tikkun du nom de Dieu? D'un des noms de Dieu. Qui est le tikkun d'un des noms de la présence divine, en réalité. Shomer Emunim, il dit que tous les noms qu'on a dans la Torah qui font référence à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas les noms de Dieu. C'est les noms des actions de Dieu dans ce monde. On voit que Elohim, c'est la rigueur divine. Yud Kevavke, c'est Rahamim, d'accord? Et chaque nom par rapport à la façon, Yud Kevavke, par rapport à la façon dont je vais le pointiller, d'accord? Donc je vais mettre les voyelles, il sera dans une dimension différente. Donc on voit en réalité que ça fait référence à l'action de Dieu dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On doit réparer, on doit chercher à ce que l'action de Dieu dans ce monde se dévoile à nous. Comment? Pas en faisant descendre Dieu ici-bas, mais nous en faisant Torah au Mitzvot, d'élever la création, le matériel, vers Akadosh Baruch Hu. Raison pour laquelle, quand je prends un aliment, je fais une bracha dessus. Pour élever l'aliment à un niveau spirituel. De prendre tout ce qui est matériel et en faire des Mitzvot autour de moi. Oui? Ce qui est très important. Et on voit à partir de ce moment-là, que pour faire ce tikkun-là, au moment où je bois, il y a une kavana qui est très sympa, c'est de boire soit 15 petites gorgées de vin devant le repas, durant le repas, d'accord? Soit de boire dans des kos lechem, comme avait l'habitude le Rav Ovadia Yosef, ou le Rav Ben Sion de Bachaoul, ou d'autres de l'Ador, que certains d'entre eux, je les ai vus faire, comme ça, de prendre des petits verres lechem, vous savez, les petits verres en plastique qu'on appelle les kos lechem, tout petits, pour les Tunisiens, c'est les petits verres pour la boucha. Donc on voit comme ça, hein, on voit en réalité de boire 15 petits verres comme ça. Pas obligé de les boire en entier. Pourquoi? Parce que faut pas... C'est boire, c'est bien. Boire trop, c'est pas top. Même à Pourim, à moins qu'on sache se contrôler. Mais 15 petits verres comme ça, pourquoi? Parce qu'à travers les 15 verres qu'on est en train de boire durant le repas, on est en train de se relier à Kadosh Baruch Hu et de réparer le nom de Dieu en nous. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité tout simplement que le Aleph qui est en nous, quelque part, le rendre pas Yud-Ké, Vav-Ké, mais de le rendre tout simplement Yud-Hé, Yud-Hé. Donc de gagner en Darga, d'arriver à nous élever à travers les quatre dimensions supérieures de l'Aneshama. C'est le fameux 4. Parce que 26 jusqu'à 30, il monte 4. Suivez ou pas? Ça veut dire qu'en réalité, l'Aneshama, elle a 5 niveaux. Il y a le Nefesh qui est au niveau du corps. Et je parle de l'Aneshama spirituelle. L'Aneshama animale, elle a 3 niveaux. Maintenant, l'âme spirituelle, elle a 5 niveaux. Le Nefesh qui est au niveau du corps. D'accord? Après, il y a Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord? 4 niveaux supérieurs. Raison pour laquelle les hommes mettent les tefillin. Avec le boîtier de la tête, il y a 4 compartiments pour les 4 parachutes. Pourquoi? Parce que c'est pour permettre aux 4 parties supérieures de la Neshama de se relier totalement entre le corps et Akadosh Baruch Hu. Et de réparer le corps, de permettre à ce corps de recharger ses batteries spirituelles. Donc en réalité, vos tefillin, c'est un chargeur de batterie. Et la batterie, c'est vous. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on met les tefillines de jour de Pourim. Et on terminera là-dessus. On terminera sur ce dernier petit truc sympa. Et après, je vous libère, promis. Bezrat Hashem. On voit que la Yudim Aïta Orav Simchas et Sasson Vikar. D'accord? Bon, alors on voit que chaque terme fait référence aux tefillines, fait référence à la Mila, fait référence aux misvot importantes du Klal Israël, à la Torah. Ora, c'est la Torah. Maintenant, on voit Vikar. Vikar, c'est l'essentiel. Quand on fait la Torah, les misvot, c'est d'arriver à devenir... à s'élever vers Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ça fait référence à différentes mitzvot, Baruch Hashem. Mais on voit une chose, dans Parasha Vayikra, le Aleph de Vayikra, il est écrit en petit. Chaque année, on le lit juste avant Pourim. Oui ou non? Il est petit. Si j'enlève le Aleph, j'ai quoi comme lettre? Vicar. Hein? Attendez, je n'ai pas terminé. Il a rapporté dans la Gemara, hein, une chose extraordinaire, d'accord? On lui dit que la Torah... Ça, c'est dans Tehilim. On lit chaque Shabbat dans les Tehilim de la Tfila, hein, d'accord? Que la Torah metuka, d'accord? Mitvash ou menofet soufim. Donc la Torah est plus sucrée que le miel et que le sucre du pollen, entre guillemets, d'accord? Donc on voit que la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il est dit tout simplement que... Mais à quoi ça fait référence tout simplement? C'est qu'un Talmid Racham, un juif qui est dans la Torah, il doit chercher à faire la Torah pour... arranger ses midotes, pour arranger ses traits de caractère, pour arriver à bien se comporter vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, etc. Maintenant, un juif qui ne fait pas ça, qui ne fait pas ce travail-là, d'accord, tout simplement, il est comparé à une Nevela. Il est comparé à une Nevela. Il est comparé, dans la Gemara, on dit qu'il est pire qu'une Nevela. C'est-à-dire un cadavre. Pourquoi ? Parce que la Kedusha de la Torah, au lieu d'utiliser pour s'améliorer, et pour devenir lui plus sucré grâce à la Torah que le miel ou le pollen, le sucre du pollen, d'accord ? Bah, tout simplement, il va utiliser la Torah pour son intérêt personnel. D'accord ? Pour le kavod, pour la parnassa, pour différentes choses. Et on dit qu'un juif qui est comme ça, hein, d'accord ? Il est appelé Menuval Bechama Torah. Donc, ça veut dire, c'est un arrogant, d'accord ? Une pourriture au nom de la Torah. Entre guillemets. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'il est qu'on l'appelle Nevela. Mais si maintenant, une personne, quand elle fait la Torah, elle fait ça pour s'améliorer et permettre aux gens autour de lui de s'améliorer, lui, il est appelé plus sucré que le miel et le sucre du pollen. Et quand on dit vicar, en réalité, c'est pour rappeler que les Israël, s'ils écoutent la Kadosh Baruch Hu, si les hommes sont fiers de faire la Brit Mila, si les parents sont fiers de faire la Brit Mila à leurs enfants, de mettre les tefillines, de célébrer la bar mitzvah, de vivre une vie de Torah, donc ils deviennent eux aussi vicar, plus sucré, d'accord, que le miel et le sucre du pollen. C'est la raison pour laquelle dans Vayikra, Moshe Rabbeinu, on lui dit ça. Pourquoi ? Parce que Dieu, pour Dieu, il était plus sucré. Le Aleph fait référence à Kadosh Baruch Hu, comme j'ai expliqué dans le cours. D'accord ? Mais en réalité, c'est que Moshe Rabbeinu, toute la Torah, il l'utilisait non seulement pour s'améliorer, mais pour améliorer tous les bénis Israël. On dit qu'il y a une femme en Égypte qui a accouché de 600 000 hommes. Rapporté. Et on dit que c'est Yochevet. Pourquoi Yochevet, on dit qu'elle a accouché de 600 000 hommes ? Parce qu'elle a accouché du président de la génération, du nasi de la génération. Président, pas celui qui a été élu. Celui qui a été élu par Akadosh Baruch Hu, le manique de la génération. Que le manique de la génération, il permet à toute la génération, toutes ses mises votes, toutes ses actions, permet à la génération de se réparer parce qu'il parle avec eux, il les dirige et qu'il veut leur faire teshuvah. Donc on voit c'est quoi le niveau de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que chaque Ben Israël, le jour de Pourim, s'il comprend bien son attachement à la loi des Rabbanan, la loi rabbinique qui a été introduite dans ce monde par le biais de Moshe Rabbeinu, d'accord, tout simplement, on voit quoi? On voit que si, et en réalité quand on parle de loi rabbinique, on parle de loi orale par la suite, on voit que si on fait ça, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est le premier homme et le seul homme de tout le Tanakh qu'on dit, qu'on appelle Rabbeinu, notre Rav. Tous les autres, c'est quand les Avot, pourquoi on les appelle pas Rabbeinu? C'est nos maîtres aussi, non? Tout ça, parce qu'il a introduit cette notion-là. D'accord? Que quand on ne savait pas quoi faire avec la Torah, il fallait poser la question à Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, par rapport à ça, si on comprend cette importance-là à Pourim, on devient vicar, on devient important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et plus sucré. Parce qu'on comprend que la Torah, elle est là pour nous permettre de nous améliorer. Et que si on n'y arrive pas par nous-mêmes, Vaftalerecha Kamocha, tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Donc ce qui oblige les rabbanim à devoir toujours être disponibles pour répondre aux gens, normalement, hein, d'un point de vue technique. Mais aussi, on est tous garants les uns des autres. Donc quand quelqu'un s'améliore, moi aussi ça m'améliore quelque part un peu la vie. Parce que quand quelqu'un s'améliore, c'est aussi son foyer qui s'améliore. Et ça fait un foyer de moins à s'inquiéter. Et des enfants de moins à s'inquiéter quand mes enfants sont dehors. Non ? Mais ça fait sourire, mais c'est une réalité. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de passer un Pourim Sameach, de faire un grand tikkun à Pourim. Mais juste la dernière chose, pourquoi les deux Sioudot? Je vais terminer là-dessus. Parce que la deuxième Sioudah, c'est quoi? Durant la première Sioudah, ils boivent 15 verres de vin pour faire le tikkun dans Midat Adin. Et durant la deuxième Sioudah, ils font Midat Achesed. Et durant la deuxième Sioudah, ceux qui avaient cette coutume-là, ils faisaient des grillades. Pourquoi? En souvenir du Korban Pessah, ils commencent à se mettre dans l'ambiance. Donc ils mangeaient des grillades pour dire à Dieu, voilà, nous on déjà on fait des grillades aujourd'hui, mais redonne-nous le Betamikdash, qu'on puisse aller manger, oui ou non, le Korban Pessah. Bezrat Hashem, à Yerushalem cette année, amen, Kenny Ratson. Il faut aussi encore...